Chapitre 8. Sutton Chancellor. Après avoir quitté la maison du canal, Tuppence roula lentement sur l'étroit chemin en zigzag qui, lui avait-on assuré, devait la conduire à Sutton Chancellor. L'endroit était désert, aucune habitation en vue, rien que des champs et des barrières d'où partaient des pistes boueuses. La circulation était quasi nulle. Elle n'avait rencontré qu'un tracteur et une camionnette, laquelle arborait fièrement une enseigne à la gloire du « délice de maman », énorme miche de pain à la mine on ne peut moins naturelle. La flèche de l'église qu'elle avait remarquée au loin semblait s'être volatilisée, mais elle finit par réapparaître, presque à portée de main, après que le chemin eut brusquement tourné de façon abrupte autour d'une ceinture d'arbres. Tuppence jeta un coup d'œil à son compteur. Elle avait parcouru 3 kilomètres depuis la maison. L'église, une belle et vieille église, était située dans un enclos de bonne taille, planté d'un if solitaire à la porte. Tuppence laissa sa voiture devant le portail couvert du cimetière, entra et resta un moment à examiner l'église et l'enclos. Puis elle gagna l'arche romane du porche et souleva la lourde poignée de la porte. Celle-ci n'était pas fermée. Elle entra. L'intérieur n'avait rien de remarquable. L'église était sans conteste ancienne, mais elle avait été remise au goût victorien avec un certain zèle. Ses bancs de pitch-pain et ses vitraux rouges et bleus flamboyants avaient eu raison du charme qu'elle avait dû posséder. Une femme entre deux âges, en tailleur de tweed, disposait des fleurs dans des vases de cuivre autour de la chaire après en avoir fini avec la décoration de l'autel. Elle jeta à Tuppence un regard insistant autant qu'inquisiteur. Celle-ci remontait à des bas-côtés au mur tapissé de plaques commémoratives. Une famille du nom de Warrender semblait avoir été particulièrement bien représentée autrefois en ces lieux. Tous ses membres avaient habité le prieuré, à Sutton Chancellor. Le capitaine Warrender, le commandant Warrender, Sarah Elizabeth Warrender, épouse bien-aimée de George Warrender. Une plaque plus récente signalait la mort de Julia Stark, épouse bien-aimée elle aussi de Philip Stark, également du prieuré, à Sutton Chancellor. Ce qui semblait indiquer que la lignée des Warrender s'était éteinte. Aucune de ces plaques commémoratives n'était particulièrement évocatrice ou intéressante. Tuppence ressortit de l'église et en fit le tour. Décidément, l'extérieur était beaucoup plus séduisant que l'intérieur. « Début 14e, se dit-elle, étant familière de l'architecture religieuse depuis toute petite. » L'édifice étant de bonne taille, Tuppence en déduisit que Sutton Chancellor avait dû être, par le passé, beaucoup plus important qu'il ne l'était aujourd'hui. Laissant sa voiture où elle se trouvait, elle entreprit de parcourir le cœur du village. Il se réduisait à une classique épicerie-bazar de campagne, un bureau de poste et une douzaine de maisonnettes. Deux ou trois d'entre elles arboraient encore leur toit de chaume, mais la plupart n'avaient aucun caractère. Tout au bout se dressaient quelques logements sociaux, manifestement un peu embarrassés de se trouver là. Sur une porte, une plaque de cuivre indiquait « Arthur Thomas, ramoneur ». Un agent immobilier conscient de ses responsabilités n'aurait-il pas dû solliciter les services de ce ramoneur au profit de la maison du canal qui en avait un sérieux besoin? Quelle idiote elle faisait de ne pas avoir demandé comment s'appelait cette maison. Elle revint lentement vers l'église et s'arrêta pour examiner plus attentivement le cimetière. Ce cimetière lui plaisait. Il ne s'y trouvait guère de tombes récentes. La plupart des pierres tombales remontaient à l'époque victorienne. D'autres plus anciennes avaient été à demi effacées par le lichen et les injures du temps. Tout était belle. Certaines stèles étaient surmontées de chérubins et entourées de couronnes mortuaires. Tuppence les parcourut en jetant un coup d'œil aux inscriptions. Warrender de nouveau. Mary Warrender, 47 ans. Alice Warrender, 33 ans. Colonel John Warrender, tué en Afghanistan. Divers enfants Warrender, morts en bas âge, profondément regrettés et qu'accompagnaient d'éloquents poèmes porteurs de pieux espoirs. Restait-il encore un Warrender en vie? Ils avaient cessé d'être enterrés là, apparemment. Tuppence ne trouva aucune tombe Warrender postérieure à 1843. Après avoir contourné le grand if, elle tomba derrière l'église sur un vieil ecclésiastique penché sur une rangée de pierres tombales le long d'un mur. Elle s'approcha de lui. « Bonjour, » dit-il aimablement. « Bonjour, » répondit Tuppence, « je visitais l'église. » « Détruite par ces rénovations victoriennes, » déplora l'ecclésiastique. Sa voix était agréable et son sourire amical. On lui aurait donné 70 ans au bas mot, mais Tuppence avait l'impression qu'en dépit de ses rhumatismes et de la difficulté qu'il semblait éprouver à tenir sur ses jambes, il devait être moins âgé que cela. « On avait trop d'argent à l'époque victorienne, » reprit-il tristement, « et trop de maîtres de forge. Ils étaient pieux, mais n'avaient hélas aucun sens artistique, aucun goût. « Vous avez vu le vitrail, côté est ?» demanda-t-il en frissonnant. « Effroyable, » reconnut Tuppence. « Je ne saurais mieux dire. Je suis le pasteur, » ajouta-t-il comme si cela n'allait pas de soi. « Je m'en serais douté, » répondit poliment Tuppence. « Vous êtes dans le pays depuis longtemps ?»« 10 ans, mon petit. C'est une bonne paroisse. Les gens, pour le peu qu'il y en a, sont gentils. J'ai été très heureux ici. » « Ils n'aiment pas beaucoup mes sermons, remarquez. Je fais de mon mieux, mais évidemment, je ne peux pas me vanter d'être outrageusement moderne. « Asseyez-vous, » dit-il en lui offrant l'hospitalité d'une pierre tombale toute proche. Tuppence y prit place avec reconnaissance et le pasteur s'assit à côté d'elle, sur la tombe voisine. « Je ne peux pas rester debout très longtemps, » expliqua-t-il en s'excusant. « Puis-je vous être de quelque utilité ou êtes-vous seulement de passage ?» Seulement de passage, j'ai eu envie de jeter un coup d'œil à l'église. Je me suis vaguement perdu en voiture dans toutes ces petites routes. Oui, oui, il n'est pas très commode de trouver son chemin par ici. Les panneaux indicateurs sont presque tous cassés et la municipalité ne s'occupe pas de les faire réparer comme elle le devrait. D'ailleurs, ça n'a pas beaucoup d'importance. En général, les gens qui empruntent nos voies vicinales n'ont pas d'objectif particulier. Ceux qui en ont un ne quittent pas les routes principales. Épouvantable, ajouta-t-il. « Surtout la nouvelle autoroute, du moins, c'est mon avis. Ce bruit, cette vitesse, cette manière insensée de conduire. Oh ! Et puis ne faites pas attention à moi, je suis un vieil ours. Vous ne devinerez jamais ce que je fais ici, » poursuivit-il. « J'ai vu que vous examiniez les pierres tombales, » répondit Tuppence. « Elles ont fait l'objet de vandalisme ? Des adolescents les ont mises en pièces ? Non, remarquez, il n'est pas étonnant qu'une telle pensée vous vienne à l'esprit. » Avec toutes ces cabines téléphoniques saccagées et toutes ces déprédations auxquelles se livrent nos jeunes vandales par les temps qui courent. Les pauvres enfants, ils n'ont rien de mieux à faire, je suppose. Et rien ne les amuse plus que casser. C'est triste, non ? Très triste. Non, il ne s'est rien passé de tel. Ils sont très gentils ici, pour la plupart. Non, je cherche simplement la tombe d'une enfant. Tuppence s'agita sur sa pierre tombale. « La tombe d'une enfant ?»« Oui, une fillette. J'ai reçu une lettre d'un certain commandant Waters, me demandant si par hasard une petite fille n'avait pas été enterrée ici. J'ai regardé dans le registre de la paroisse, bien sûr, mais je n'ai rien trouvé à ce nom. J'ai pensé qu'on avait peut-être commis une erreur de transcription, c'est pourquoi je suis venu ici jeter un coup d'œil aux pierres tombales. »« Quel était son prénom ?»« Il n'en savait rien. Peut-être Julia, comme sa mère. » Quel âge avait cet enfant ? Là non plus, il n'était pas sûr. Tout cela est plutôt vague. Je crois que cet homme se trompe de village. Je ne me rappelle pas avoir jamais entendu parler d'un Waters qui aurait vécu ici. Et les Warrender ? Demanda Tuppence. L'église est pleine de plaques commémoratives à ce nom, et on le trouve aussi sur de nombreuses pierres tombales. Ah, la lignée est maintenant éteinte. Il possédait une magnifique propriété. Un vieux prieuré du XIVe siècle. Il a été détruit dans un incendie, il y a une centaine d'années, à la suite de quoi les Warrender sont partis pour ne plus jamais revenir. À l'époque victorienne, un dénommé Stark a fait construire au même endroit une nouvelle maison. Hideuse mais confortable, paraît-il. Très confortable. Avec salle de bain, voyez-vous, et tout ce qui s'ensuit. Je veux bien croire que c'est d'une certaine importance, toutes ces fantaisies modernes. C'est quand même bizarre que quelqu'un écrive pour s'enquérir de la tombe d'une fillette, remarqua Tuppence. Ce quelqu'un, c'est un parent ? C'est le père de l'enfant, répondit le pasteur. Encore une tragédie de la guerre, sans doute. Un mariage qui s'est défait quand le mari a été envoyé au combat sur le continent. une enfant aînée qu'il n'a jamais vue. Ce serait une adulte aujourd'hui, si elle avait vécu. Il doit y avoir 20 ans de ça, ou plus. Il a attendu bien longtemps pour la chercher, non ? Apparemment, il n'aurait appris que récemment l'existence de cet enfant, par pur hasard. C'est une curieuse histoire. Qu'est-ce qui lui a fait penser que la fillette pourrait avoir été enterrée ici ? J'imagine que quelqu'un qui avait rencontré sa femme pendant la guerre lui a dit que celle-ci vivait à Sutton Chancellor. Cela arrive, vous savez. Vous vous trouvez tout à coup nez à nez avec un ami ou une connaissance que vous n'avez pas vu depuis des années, et voilà qu'il vous donne soudain des nouvelles du passé que vous n'auriez pu obtenir d'aucune autre manière. Mais elle n'habite certainement plus ici. Personne de ce nom n'a vécu ici, du moins depuis que j'y suis, ni pour ce que j'en sais dans les environs. Évidemment, la mère pourrait avoir changé de nom. Quoi qu'il en soit, le père doit avoir mis des notaires et des détectives sur la piste, et ils finiront bien par trouver quelque chose. Mais cela prendra du temps. S'agissait-il de votre malheureux enfant ? Murmura Tuppence. Que dites-vous, mon petit ? Rien, répondit Tuppence. C'est une question que quelqu'un m'a posée l'autre jour. S'agissait-il de votre malheureux enfant ? S'entendre demander ça tout à coup, c'est plutôt surprenant. Mais je ne pense pas que la vieille dame qui a prononcé cette phrase savait de quoi elle parlait. J'imagine, j'imagine. J'en fais souvent autant. Je me surprends parfois à dire des choses sans en comprendre la signification. C'est démoralisant. Vous n'ignorez rien des gens qui habitent ici à l'heure actuelle, je suppose, reprit Tuppence. Ma foi, non, mais il n'y a pas grand-chose à savoir. Pourquoi ? Vous cherchez des renseignements sur quelqu'un ? Je me demandais si une Madame Lancaster avait jamais vécu ici. Lancaster ? Non, ça ne me rappelle rien. Et puis, il y a une maison, je roulais sans but aujourd'hui par les chemins creux. Je sais ce que c'est, ils sont très jolis, nos chemins creux. Et vous pouvez y trouver des spécimens très rares, botaniques, j'entends. Dans les haies, surtout, personne ne cueille les fleurs de ces haies. Il n'y a pas beaucoup de touristes par ici, oui. Il m'est arrivé de trouver des spécimens très rares. Le géranium sauvage, dit bec de grue, à feuilles molles, pour ne citer que celui-là. J'ai vu une maison près du canal, intervint Tuppence, qui n'avait pas l'intention de se laisser égarer dans la botanique. Près d'un petit pont en dos d'âne, à 3 kilomètres d'ici à peu près. Je me demande comment elle s'appelle. Attendez, le canal, un pont en dos d'âne. Ma foi, il y a plusieurs maisons dans ce cas. Il y a la ferme Méricot. Non, ce n'est pas une ferme. Ah, alors c'est la maison des Perry, Amos et Alice Perry. C'est exact, confirma Tuppence, monsieur et madame Perry. C'est une femme au physique remarquable, n'est-ce pas ? Très remarquable. Elle a un visage médiéval, vous ne trouvez pas ? Elle va jouer la sorcière dans la pièce que nous préparons avec les élèves de l'école. Elle ressemble assez à une sorcière, non ? Oui, acquiesça Tuppence, à une sorcière sympathique. Comme vous dites, mon petit, vous avez tout à fait raison. Oui, à une sorcière sympathique. Mais lui ? Oui, le pauvre, il n'est pas tout à fait sain d'esprit, mais il ne ferait pas de mal à une mouche. Ils ont été très gentils avec moi. Ils m'ont invité à prendre le thé, raconta Tuppence. Mais j'aimerais connaître le nom de la maison. J'ai oublié de le leur demander. Il n'en habite que la moitié, n'est-ce pas ? Oui, oui, dans ce qui était autrefois les cuisines. Eux, ils l'appellent, je crois, Waterside, au bord de l'eau. Alors qu'auparavant, son nom était Watermead, la noue. Beaucoup plus jolie, à mon avis. À qui appartient l'autre moitié ? Eh bien, toute la propriété appartenait à l'origine au Bradley. Mais cela fait un bout de temps, 30 ou 40 ans, à mon avis. Puis, elle a été vendue et revendue, et ensuite elle est restée vide longtemps. Quand je suis arrivé ici, elle ne servait que de maison de week-end à une actrice. Mademoiselle Margrave, je crois. Elle n'était pas souvent là, elle ne venait que de temps en temps. Je ne l'ai jamais vue. Elle ne mettait jamais les pieds à l'église. Je l'ai seulement aperçue de loin. Une belle femme, une très très belle femme. Et qui possède maintenant la maison ? Insista Tuppence. Je n'en ai aucune idée. Peut-être lui appartient-elle encore. La moitié occupée par les Perry ne l'aurait que louée. Je l'ai reconnue tout de suite, dès que je l'ai vue, expliqua Tuppence, parce que je possède un tableau la représentant. Vraiment ? Ça doit être un de ceux de Boscombe. Ou ne s'appelait-il pas plutôt Boscobel ? J'ai oublié. Un nom comme ça, en tout cas. Un cornouaillais assez connu, je crois. Il doit être mort à l'heure qu'il est. Oui, il venait ici assez souvent et il dessinait tous les alentours. Il faisait aussi des peintures à l'huile, de très jolis paysages parfois. Ce tableau, c'est un cadeau qu'on a fait à ma tante qui est morte il y a un mois. C'est une certaine Madame Lancaster qui le lui a donné. C'est pourquoi je vous ai demandé si vous connaissiez ce nom. Mais le pasteur, une fois de plus, secoua la tête. Lancaster, non, ça ne me rappelle rien. Ah, mais il y a quelqu'un ici que vous pourriez interroger. C'est notre chère Mademoiselle Bly. Très active, Mademoiselle Bly. Elle sait tout sur toute la paroisse et elle dirige tout. Le cercle des femmes, les scouts, les guides, absolument tout. Adressez-vous à elle et à personne d'autre. Très active, Mademoiselle Bly. Vraiment très, très active. Le pasteur soupira. L'activité de Mademoiselle Bly semblait lui peser. On l'appelle Nelly Bly au village. Les gosses le scandent même parfois sur son passage. Nelly Bly, Nelly Bly. Vous savez, comme la journaliste qui court partout. Mais Nelly n'est même pas son vrai nom. Elle doit se prénommer quelque chose comme Gertrude ou Géraldine. Mademoiselle Bly, qui n'était autre que la femme en tailleur de tweed que Tupens avait aperçue dans l'église, s'approchait d'eux à pas pressés, un arrosoir à la main. Elle regardait Tupens avec une intense curiosité et, accélérant encore le pas, entama la conversation avant même de les avoir rejoints. « J'ai fini !» s'exclama-t-elle gaiement. « Ça a été un tourbillon aujourd'hui, un tourbillon !» Évidemment, vous le savez, mon cher pasteur, je fais d'habitude l'église le matin. Mais vous n'imaginez pas le temps qu'a pris cette réunion d'urgence à la salle paroissiale. Des discussions à n'en plus finir. Je me dis parfois que les gens émettent des objections juste pour le plaisir. Madame Parrington a été particulièrement agaçante. Elle voulait qu'on discute tout par le menu et trouvait toujours qu'on n'avait pas obtenu assez de devis d'entreprises différentes. De toute façon, tout cela représente si peu d'argent que quelques shillings de plus ou de moins n'y changeront pas grand-chose. Et on peut faire confiance à Birkenhead. Entre nous, mon cher pasteur, je pense que vous ne devriez pas rester assis sur cette tombe. C'est irrévérencieux, sans doute. Oh non, bien sûr que non. Je ne songeais pas du tout à ça. Je pensais à la pierre. Elle est humide, comprenez-vous. Et avec vos rhumatismes. Elle eut un regard oblique interrogateur en direction de Tupens. « Permettez-moi de vous présenter à Mademoiselle Bly, » dit le pasteur. « Voici Madame Beresford, » dit Tupens. « Ah oui, je vous ai vu tout à l'heure. Vous visitiez l'église, n'est-ce pas ? J'aurais dû venir à vous et attirer votre attention sur quelques points intéressants, mais j'étais tellement pressé de terminer mon travail. C'est moi qui aurais dû venir à vous et vous aider, » répliqua Tupens de son ton le plus suave. « Mais je ne vous aurais sans doute pas servi à grand-chose, car on voit bien que vous possédez à fond l'art du bouquet. »« Ma foi, c'est très gentil à vous de le dire, mais c'est la vérité. J'arrange les fleurs dans l'église depuis... Oh, j'ai perdu le compte des années. Pour les fêtes scolaires, nous laissons les élèves composer eux-mêmes leurs brassées de fleurs sauvages, mais évidemment, les pauvres petits, ils n'y entendent rien. Je leur montrerai volontiers comment faire, mais Madame Pic décrète qu'il ne saurait en être question. Elle est tellement bizarre. » Elle prétend que ça leur ôterait tout esprit d'initiative. Vous séjournez ici ? Je me rends à Market Basing, répondit Tupens. Peut-être seriez-vous en mesure de m'indiquer là-bas un petit hôtel tranquille où je pourrais descendre ? Eh bien, je crains que vous ne soyez un peu déçus. C'est une place marchande, vous savez, une de ces bourgades qui ne vivent que pour leurs champs de foire. Elle ne pourvoit pas du tout aux besoins des automobilistes. Le dragon bleu s'est vu attribuer 2 étoiles, mais en vérité, ces étoiles ne signifient souvent rigoureusement rien. Je pense que le limbe vous plaira mieux. Il est plus tranquille. Vous comptez rester là longtemps ? Oh non, un jour ou deux, le temps d'explorer un peu les environs. Il n'y a hélas pas grand-chose à voir, déplora le pasteur. Pas de vieilles pierres, rien de ce genre. Notre région est purement rurale et agricole. Mais paisible, vous savez, très paisible. Avec, comme je vous l'ai dit, quelques fleurs sauvages que vous ne trouverez nulle part ailleurs. « Ah oui, » confirma Tupens, « il paraît, et j'ai hâte d'en cueillir quelques spécimens. Je profiterai des moments de répit que me laissera ma chasse aux maisons. »« Mon Dieu, comme c'est intéressant !» s'exclama Mademoiselle Bly. « Vous pensez vous installer par ici ? » C'est-à-dire, mon mari et moi ne sommes pas fixés sur un endroit en particulier, répondit Tuppens. Et nous ne sommes pas non plus pressés. Il ne prendra pas sa retraite avant 18 mois. Mais je trouve que ça vaut toujours la peine de fureter. Personnellement, ce que je préfère, c'est m'installer quelque part pendant 4 ou 5 jours, prendre la liste de toutes les petites propriétés sur le marché et en faire le tour. Faire le trajet depuis Londres pour visiter une seule et unique maison, c'est à mon avis trop fatigant. Comme je vous comprends, vous êtes en voiture, n'est-ce pas ?
Oui,
répondit Tuppence. Je dois passer voir un agent immobilier demain matin à Market Basing. Il n'y a rien ici dans le village où je pourrais passer la nuit, par hasard. Nous avons bien sûr Madame Copley, s'empressa Mademoiselle Bly. Elle prend des hôtes l'été, des vacanciers. Elle est d'une propreté exemplaire. Toutes ses chambres le sont aussi. Évidemment, elle n'offre que le lit et le petit déjeuner, à la rigueur un léger souper le soir. Mais je ne crois pas qu'elle prenne qui que ce soit avant le mois d'août ou juillet au plus tôt.
Peut-être pourrais-je pousser jusque chez elle afin d'en avoir le cœur net, suggéra Tuppence.
C'est une femme des plus respectables, mais elle a la langue trop bien pendue, prévint le pasteur. Elle n'arrête jamais de parler, pas une seconde.
Les bavardages et les potins font partie de la vie de ces petits villages, fit observer Mademoiselle Bly. Ce serait une bonne idée que j'aide Madame Beresford. Je peux la conduire chez Madame Copley et voir ce qu'on pourrait envisager.
Ce serait très aimable de votre part, reconnut Tuppence. Alors allons-y, répliqua vivement Mademoiselle Bly.
Au revoir, pasteur. Vous cherchez toujours ?
Triste besogne, d'autant plus qu'elle a peu de chances d'aboutir. Cette requête n'est vraiment pas raisonnable, à mon avis.
Tuppence prit congé du pasteur en lui assurant qu'elle serait heureuse de l'aider autant que possible.
Je serai prête à passer une heure ou deux à inspecter les diverses pierres tombales. J'ai une très bonne vue pour mon âge.
C'est juste le nom de Waters que vous cherchez ?
Pas vraiment, répondit le pasteur. C'est surtout l'âge qui compte. Une enfant de 7 ans environ. Le commandant Waters estime que sa femme a pu changer de nom et que l'enfant figure peut-être sous son nouveau patronyme. Mais comme il n'a pas la moindre idée de ce que le nouveau patronyme en question pourrait bien être, cela ne nous facilite pas les recherches.
Tout cela ne tient pas debout, décréta Mademoiselle Bly. Vous n'auriez jamais dû accepter une corvée pareille. C'est monstrueux, une demande comme ça.
Le pauvre homme semble tellement perdu, se défendit le pasteur.
Toute cette histoire est bien triste, mais je m'en voudrais de vous retenir.